Le journal, Séverine Boé.
Depuis hier, les habitants d'Orvin doivent bouillir l'eau du robinet pour la consommer. Pour l'heure, aucune piste n'a été trouvée sur l'origine de ce taux de bactéries trop élevé. Les explications du vice-maire Sylvain Grosjean dans un instant. C'est la fin pour Derort. Ce lieu biennois était un point de rendez-vous pour de nombreux événements ou conférences sur des thèmes sociétaux. Il fermera ses portes dimanche. Il n'y a pas qu'en avion qu'il faut voyager léger. La SNCF a décidé de serrer la vis face au surplus de bagages. Depuis lundi, voyager trop chargé peut être impondé. Réaction des usagers dans ce journal. Le temps sera agréable aujourd'hui. Des cumulus devraient toutefois faire leur apparition dans l'après-midi. Au meilleur de la journée, il fera jusqu'à 19 degrés. Le réseau d'eau d'Orvin est contaminé. Des contrôles effectués lundi à plusieurs endroits de la commune ont découvert une bactérie. Bien que le niveau de contamination soit faible, les autorités ont appelé hier soir la population à prendre des précautions. Ne pas boire l'eau du robinet, ne pas l'utiliser pour laver des aliments ou des récipients, sélectionner un programme de température maximum pour le lave-vaisselle par exemple. La présence de bactéries dans le réseau n'est pas encore expliquée, mais la commune d'Orvin met tout en œuvre pour en trouver la source, d'après le vice-maire Sylvain Grosjean.
Depuis hier où on a déclenché le système de sécurité, les containers ont fait tout le parcours du réseau d'eau pour voir s'il n'y avait pas eu une fuite ou un dégât quelconque ou un purinage ou un accident ou un déversement sauvage. Suite à ça, on a découvert qu'il n'y avait rien de spécial. Hier soir, on a injecté du chlore dans les réservoirs pour que durant cette nuit, tout le réseau d'eau soit désinfecté par ce chlore. Et ce matin, à 5 heures, on a purgé toutes les conduites pour faire circuler ce chlore avant que les gens reconsomment, entre guillemets, pour le bétail comme ça, reconsomment de l'eau. Ça sent un petit peu le chlore, mais c'est pas nocif, entre guillemets.
Et ces précautions vont pouvoir directement avoir un impact sur l'état de l'eau?
C'est clair, avec l'introduction de ce chlore, ça va tuer toutes les bactéries qui existent dans les canalisations. Suite à ça, ce matin, on a repris un échantillonnage d'eau qu'on a donné à analyser à Bienne, au laboratoire. On aura les réponses demain. C'est possible que ça soit négatif, ça veut dire qu'on pourra en remettre. Mais on ne sait toujours pas pour quelles raisons on a retrouvé ces bactéries dans notre réseau.
Sylvain Grosjean, vice-maire à Orvin, au téléphone d'Estelle Herman. Comme le contrôle a eu lieu lundi, la contamination pourrait déjà exister depuis quelques jours. Mais le vice-maire de la commune rassure, il faut prendre des précautions, mais sans s'alarmer selon lui. Les résultats des nouveaux échantillons seront communiqués demain dans l'après-midi. C'est une bonne nouvelle pour le domaine des soins. Le CEF Santé Sociale a connu sa plus grande rentrée en nombre de nouveaux élèves depuis la création de l'école. Le centre de formation professionnelle Berne francophone continue de former de nombreux jeunes année après année. De quoi assurer la relève. Pourtant, le domaine des soins souffre toujours d'une pénurie de personnel qualifié. Le directeur du CEF Santé Sociale nous livre son analyse, Daniel Roulin.
C'est un peu paradoxal dans la mesure où on continue de former et de former toujours plus, les chiffres sont là pour le dire. On est confronté à des départs prématurés de gens qui ont été formés, qui ne travaillent pas très longtemps dans le métier pour lequel ils ont été formés, qu'on soit dans les métiers de la santé ou du travail social. Ce sont des métiers difficiles dans la mesure où les conditions de travail sont par moments précaires, des charges mentales et physiques aussi assez difficiles, des horaires par moments pas toujours évidents et je pense, de mon point de vue, des salaires qui ne sont pas à la hauteur de ces métiers-là. Ça dit que notre système suisse de santé ne prend pas soin de nos soignants. Et c'est évidemment une principale difficulté. Beaucoup de démarches vont dans ce sens-là. Il y a bien sûr une grosse démarche actuelle qui est la mise en œuvre de l'initiative de l'ASI, l'Association Suisse des Infirmiers. Cette initiative que le peuple suisse a acceptée en 2021 et que nous sommes en train de mettre en place maintenant avec deux étapes très différentes. Une première étape qui concerne l'offensive de formation, donc il faut former plus. Et une deuxième étape qui consiste à améliorer les conditions cadres de travail.
Daniel Roulin, directeur du CEF Santé Sociale basé à Saint-Imier, répondait à Diana D'Acosta. Derort disparaîtra ce dimanche. Ce lieu biennois a consisté à mettre en réseau des projets et associations. Au fur et à mesure, Derort est aussi devenu le point de rendez-vous de nombreux événements ou conférences sur des thèmes sociétaux durables et inclusifs. Il a aussi accueilli une trentaine d'expositions artistiques. Mais après 4 ans d'exploitation, Derort met ce dimanche la clé sous la porte. L'initiatrice et directrice de cet espace, Christine Walzer.
C'est dommage. Mon point de vue est que c'est un lieu qui a vraiment couvert un besoin ici. Mais voilà, ça c'est aussi un peu un miroir de ce temps.
Pourquoi prendre la décision de fermer Derort?
C'est une décision financière qu'on a dû faire parce que le loyer a augmenté et toutes les autres charges aussi ont augmenté cette année ou déjà l'année passée. Et mes clients sont plutôt des associations petites. Je ne peux plus toujours augmenter les prix.
Malgré des mois de recherche pour s'installer dans un autre lieu, l'espace des Hortes va ainsi fermer ce dimanche. La plupart des associations présentes sur place continueront de leur côté, mais celles de Der Hortes se cherchent encore pour la suite, car sans local, le projet n'a plus la même utilité et aucun financement ne rentre. Découvrir la vie et l'œuvre de Paul-André Robert au travers de deux ouvrages, c'est ce que propose l'une de ses descendantes. Béatrice Reichen-Robert est l'une des petites filles du peintre naturaliste d'Orvin. Elle, qui vit au Brésil, a consacré deux livres pour retracer le parcours de son aïeul. Le premier est une biographie, Béatrice Reichen-Robert.
Ma famille a vécu au Brésil pendant très longtemps, en tout cas mes parents ont vécu 30 ans au Brésil. Et quand ils sont revenus en Suisse, c'est ma maman qui a découvert beaucoup de documents qui concernait sa famille, qu'elle a retranscrit. Et puis un jour, elle m'a légué tout ce matériel en demandant de manière indirecte, on va dire, que quelqu'un fasse une biographie. Et j'ai décidé de le faire.
Et dans cette biographie, c'est comme un travail d'historien où vous êtes allé rechercher des lettres, des photos. Comment ça nourrit votre travail, toute cette histoire ?
Alors, on va dire que le premier travail a été fait par ma maman. C'est elle qui a transcrit tous ces documents. Et donc, moi, j'ai reçu le travail qui était déjà bien avancé, c'est-à-dire que j'avais toutes ces informations. Et puis, j'ai tout simplement essayé de raconter une histoire. Il n'y avait pas d'histoire, il y avait juste les documents. Donc, à partir des lettres, à partir des agendas et des journaux intimes, j'ai retracé l'histoire de mon grand-papa de manière chronologique.
Le second ouvrage s'intéresse lui davantage au travail de Paul-André Robert. On retrouve Béatrice Reichen-Robert.
C'est comme si c'était une poupée russe, en fait, parce qu'en écrivant la biographie de mon grand-papa, j'ai découvert un passage de sa vie. C'est quand il est venu nous rendre visite au Brésil en 1961. Et il avait comme mission de sa maison d'édition, lui avait demandé de faire deux séries d'aquarelles, une série de papillons, une série de fleurs. Et puis, cette série de papillons n'a jamais été éditée parce qu'ils n'ont pas trouvé d'écrivain, on va dire de scientifique spécialiste de papillons. Et en découvrant ça, j'ai décidé de le faire moi, c'est-à-dire j'ai réuni une équipe, un biologiste brésilien, un biologiste suisse, et qui ont écrit deux chapitres. Et puis, ces aquarelles qui sont au Nouveau Musée Bienne nous ont été fournies sous forme d'images, enfin, virtuelles. Et ça, c'est un livre, plutôt un livre d'art, en fait, avec toutes ces aquarelles, plus les textes qui accompagnent ces images.
Des propos recueillis par Violette Ferreira. Le vernissage des deux ouvrages consacrés au peintre Robinois Paul-André Robert aura lieu ce vendredi à la Couronne à Sonsbourg. Les droits humains doivent être intégrés dans les négociations avec la Chine. C'est ce que réclame une pétition déposée ce matin à la chancellerie fédérale à Berne par plusieurs associations tibétaines et ouïghours. Le texte est muni de plus de 14 000 signatures. Il vise à sensibiliser les autorités avant l'ouverture des discussions avec la République populaire de Chine. Le Conseil fédéral veut développer l'accord de libre-échange afin de favoriser davantage les exportations suisses. Il doit en profiter pour aborder la problématique des droits humains, exige la pétition. Les précisions d'Anna Leysen, directrice de la Société pour les peuples menacés.
Pour nous, c'est vraiment important que la Suisse s'engage pour y mettre les droits humains. La forme exacte, c'est une question de négociation. Mais le problème ici, c'est surtout qu'il y aura une résistance de la partie de Chine. Pour nous, le message le plus important au Conseil fédéral et au Parlement, c'est d'insister sur y mettre des paragraphes qui concernent les droits humains, la situation sur le travail forcé, la situation dans les régions tibétaines, ouïghours, d'en parler. C'est le plus important. Et comment exactement ? C'est une question de négociation et c'est la responsabilité du gouvernement suisse d'y trouver les solutions.
Le Conseil fédéral dit qu'il a l'intention de traiter cette question des droits humains, mais selon vous, ça ne suffit pas, l'intention du Conseil fédéral ?
Donc c'est très facile de parler des intentions. On a des bonnes intentions. Et après, si on est confronté avec une résistance, on laisse tomber. C'est ça qu'on est préoccupé, que la Suisse n'insiste pas suffisamment dans le moment où il y aura une résistance de la part de la Chine.
Anna Leysen, directrice de la Société pour les peuples menacés, au micro de Marie Viomier. Le Conseil fédéral a reçu le feu vert des commissions parlementaires compétentes pour renégocier l'accord de libre-échange avec la Chine. Les discussions doivent démarrer cet automne. Une attaque de drone ukrainien a détruit un entrepôt où étaient stockés des missiles et des munitions d'artillerie dans la région de Tver, dans l'ouest de la Russie. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à l'AFP une source au sein des services de sécurité ukrainiens. Les autorités régionales russes de Tver ont, elles, ordonné des évacuations en raison d'un incendie causé par une attaque de drone sans mentionner d'entrepôt d'armement. Au Portugal, une quarantaine de feux de forêt continuent de ravager le nord et le centre du pays. Le Portugal est frappé depuis plusieurs jours par une vague d'incendies attisés par la chaleur et le vent. Ils ont fait au moins 7 morts, dont plusieurs pompiers. Ils sont d'ailleurs 3900 mobilisés sur les incendies et soutenus par plus d'un millier de véhicules. Il vous arrive peut-être de prendre le TGV en France voisine pour une escapade à Paris ou dans une autre ville. Désormais, vous devrez voyager léger. La SNCF a décidé de serrer la vis face au surplus de bagages. Depuis lundi, les voyageurs risquent une amende de 50 euros si leurs sacs sont trop nombreux ou trop volumineux. La sanction peut même s'élever à 150 euros si les valises sont jugées gênantes ou dangereuses. Après 6 mois de tolérance, la compagnie française de chemin de fer applique à présent sa réglementation qui impose un maximum de 2 grands bagages et un bagage à main. Nos confrères de France Bleu ont recueilli quelques réactions à la gare TGV de Belfort-Montbéliard.
Disons que je prends souvent le train et c'est vrai que les gens, des fois, ils arrivent avec des énormes bagages et que nous, on n'a plus du tout de place et des fois, les valises restent sur le couloir.
Ça me dérange pas.
Vous voyagez pas trop lourd ?
Si, ça m'arrive, mais jamais plus de 3 valises. Est-ce que je peux porter tout seul ? Parce qu'il faut que tout le monde puisse prendre autant de valises, qu'il n'y a pas plus de place que ça dans les wagons. Donc c'est juste du bon sens.
J'ai 2 valises, je pars à Orly et du coup, j'ai droit à 2 bagages soutes. Mais du coup, je ne peux pas prendre 2 bagages soutes puisque le train ne me l'autorise pas.
Comment vous êtes organisé ?
Eh bien, j'ai chargé les 2 valises. J'ai pas vérifié la dimension, mais je dirais que j'avais pris mon billet d'avion, que je prends l'avion et que j'ai pas le choix. Les prix augmentent des billets, on a moins de confort, on paye plus cher et en plus, on nous enlève bagages.
Une maman, je trouve ça un peu dans l'abus, mais il faut de la place pour tout le monde.
Les amendes ?
Ça, j'attendrai qu'on les voit, mais pour moi, c'est plus dissuasif qu'autre chose pour le moment.
La SNCF justifie cette réglementation sur les bagages pour des questions de sécurité et de circulation à l'intérieur des wagons. Les fans de la famille royale britannique peuvent se réjouir. La princesse de Galles a participé à une réunion sur la petite enfance hier au château de Windsor. Cet engagement marque son retour au travail quelques jours après l'annonce de la fin de sa chimiothérapie. L'épouse du prince William a été hospitalisée en janvier pour une intervention chirurgicale abdominale. Et après des semaines de spéculation, elle avait annoncé en mars être atteinte d'un cancer sans en préciser la nature.
RJB, il est 12h27, Séverine Boué, on chausse les chaussures et on s'en va se balader dans la région.
Sport. Les coureurs à pied de la région vont se mesurer à Saint-Imier. La Raiffeisen Run a lieu ce soir. Le départ des athlètes se fera à 19h, au menu 9,1 km pour 365 mètres de dénivelé. Merci d'avoir suivi ces informations. Prochain point avec l'actualité à 13h. Belle journée à l'écoute d'RJB.